Bienvenue, bienvenue! Je m'appelle Lily et vous écoutez La Licorne, le podcast pour rencontrer des personnes qui vivent et animent des moments extraordinaires. Avec La Licorne, vous allez voyager dans des moments parfois intimes, parfois au travail, parfois dans la nature, parfois avec un grand public, mais toujours avec une touche de magie. Au cœur de La Licorne, l'idée que chaque moment que nous passons les uns avec les autres peut devenir extraordinaire en y mettant de l'intention et les attentions qui comptent. Oyez, oyez, bienvenue dans La Licorne, chères auditrices et chers auditeurs. Avec moi, de l'autre côté des montagnes et des Flandres, et des Ardennes et des Vosges, Laura De Thiers. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un moment de danse, en fait, dans lequel tu as participé, que tu as co-organisé avec la Moza Ballet School. Et tu vas nous parler de danse et de Parkinson. Je suis super heureuse d'échanger avec toi. Bienvenue, Laura.
Merci, Lily. Je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui.
Oui. En plus, c'est vrai qu'on s'est rencontrés grâce à une formation qui implique de la danse. Donc, ça a d'autant plus de sens de se retrouver sur cet épisode-là.
Tout à fait.
Est-ce que tu es prête pour la grande question brise-glace du jour ?
Allons-y.
Alors, j'ai choisi quelque chose qui est très en lien avec l'épisode du podcast. C'est quelle est ta danse préférée ? Alors, ça peut être ta danse préférée à danser ou ça peut être aussi à regarder.
C'est une question compliquée, ça, parce qu'il y en a tellement. J'aime beaucoup les danses traditionnelles wallonnes, en fait, parce que c'est très festif, ça a l'air simple, c'est pas si simple, mais ça se danse toujours à plusieurs et dans beaucoup d'échanges et de partage.
Ouais, est-ce que ça ressemble un petit peu comme aux danses folk bretonnes ou est-ce que c'est encore
Oui, c'est un peu dans cet esprit-là, oui.
Ouais, c'est vraiment l'esprit des belles musettes.
C'est ça.
Ah, j'adore ça. C'est parmi mes meilleurs souvenirs. Et donc aujourd'hui, tu vas nous raconter ce moment de danse où dans ton école, en fait, vous avez organisé des ateliers avec des danseurs qui étaient atteints de Parkinson et des élèves de votre école. Et moi, j'ai peut-être envie de commencer en te demandant ton rapport à la danse de manière un petit peu plus générale. Toi, c'est quoi ta relation avec la danse ?
Alors, la danse, elle a fait partie de ma vie énormément dans mon enfance et mon adolescence. J'ai beaucoup dansé, enfin, je faisais de la gymnastique rythmique, c'est un peu dansé quand même. Et puis, j'ai arrêté tout un temps, puisque je suis devenue infirmière, je me suis consacrée à mon métier, à ma famille. Et puis suite à un burn-out, j'ai changé d'orientation de carrière et je suis revenue à la danse, dans une école de danse, un petit peu par hasard, mais je ne crois pas au hasard, donc c'est pas pour rien. Et donc, je suis là pour gérer leur programme social qui s'appelle Quand on danse. Et ça m'a fait revenir à la danse et j'ai retrouvé en fait ce que j'aimais dans la danse, c'est cette notion de liberté, de pouvoir exprimer plein de choses sans devoir mettre des mots dessus. Et de simplement laisser son corps bouger et ça m'a fait tellement de bien en fait de revenir à ça et puis le rapport à l'autre en fait, la danse permet de reconnecter aux autres de façon simple et naturelle sans trop réfléchir.
Merci de partager ça me donne envie de danser, c'est beau. Est-ce que tu veux nous raconter du coup un des ateliers de Quand on danse ? Tu me disais tout à l'heure, tu aimerais bien raconter peut-être ton premier atelier avec Quand on danse. Donc nous raconter peut-être combien il y avait de personnes et ce qui s'est passé le jour J.
Et en fait, c'était une formation qu'on co-organisait avec une ASBL belge qui s'appelle Kinésiphilia, qui propose des ateliers de danse pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, parce que la danse permet de ralentir l'évolution de la maladie, même d'arrêter l'évolution des symptômes. Et donc, on proposait une formation pour des danseurs qui souhaitent devenir professeurs de danse et Parkinson. Et dans le cadre de la formation, il y avait à la fin un atelier concret avec des danseurs parkinsoniens. Et donc, c'est le groupe de danseurs de Liège, ils sont 15 à 20, je pense. Ils étaient 18 ce jour-là, qui sont venus à l'école pour danser avec les professeurs en formation. Et on a profité de l'occasion pour inviter une douzaine de nos élèves à participer avec. Et donc, ça a créé un groupe, on était une quarantaine, un groupe assez hétérogène avec des personnes malades, des personnes en santé, des danseurs, des jeunes élèves en apprentissage de 12 à 18 ans, donc un peu tous les âges. La plus âgée des danseuses avait 91 ans parce qu'en fait, les proches des danseurs peuvent danser avec. Donc, c'était la maman d'une personne atteinte de la maladie qui dansait avec. Donc, c'était un groupe assez spécial, je dirais. Et en fait, on s'est retrouvés tous là. On a fait un double cercle avec des chaises et l'instructrice a donné les indications pour la première danse. Et puis, la musique a commencé et tout le monde s'est mis à danser. Et c'était un moment, il y avait une énergie dans ce cercle et c'était super émouvant et en même temps super motivant et tout le monde dansait la même danse, chacun à sa façon, chacun avec ses capacités. Et en fait, c'était assez extraordinaire. Tu vois des gens arriver avec leur canne ou au bras de leur compagnon ou compagne parce qu'ils ont vraiment des difficultés à marcher et puis d'un coup, ils se mettent à danser et là c'est comme si il y avait plus de limites, plus de contraintes. C'est assez impressionnant.
Alors je reviens sur ce que tu dis parce que moi j'ai envie de l'imaginer de la manière la plus visuelle possible. Les personnes dansent la même danse, donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est un style de danse et chacun va l'interpréter à sa manière ou est-ce que vous en tant que prof vous montrez des mouvements que chacun reproduit?
Alors en fait, le professeur montre des mouvements, mais les explique aussi de manière imagée. Donc par exemple, elle va expliquer, on soulève un voile, et puis on va ramasser des feuilles mortes par terre, on va les lancer en l'air. Donc c'est très imagé, et donc chacun va reproduire ce mouvement, mais comme il l'imagine et comme il le sent. Donc il y a une guidance, et en même temps c'est assez libre, et ça permet de faire des chorégraphies assez sympas.
Et il y a des mouvements qui sont des mouvements collectifs, à deux, à trois, à plusieurs, parce que comme vous êtes 40, j'imagine qu'il y a peut-être aussi des interactions dans le groupe.
Mais en fait, tout se fait, comme on est en cercle, c'est soit assis, il y a des moments où c'est debout, mais il y en a moins, il y en a où c'est marché, mais tout le monde fait la même danse, mais chacun à sa façon. Il y a, entre guillemets, assez peu d'interactions directes, je vais dire, c'est juste qu'on danse tous ensemble la même chose. Sur la fin, il y avait pour clôturer en fait, tout le monde s'est mis en cercle, tout le monde s'est donné la main, et puis il y avait le moment des salutations. Donc c'est chacun salue son voisin de droite et le cercle continue, mais tout en bougeant. C'est un moment assez émouvant en fait, c'est une façon de clôturer en prenant conscience de chacun qui est là.
Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce moment-là?
Ce qui m'a marqué en fait, c'est que on était tous émus et tous impressionnés de la même chose. Je pense que les élèves étaient impressionnés de la façon dont dansaient les danseurs parkinsoniens. Les danseurs parkinsoniens étaient impressionnés de voir comment dansaient les élèves. Les professeurs et les gens qui accompagnaient autour étaient impressionnés de voir comment tout le monde dansait ensemble. Et donc, c'était un peu cette découverte de ce qui peut se créer quand chacun fait à sa manière et comme il peut. Sans jugement, en fait, c'est ça qui était vraiment beau. C'était, on était tous, quelque part, nouveaux dans cette activité.
Et est-ce que tu as eu des échos de choses que ça a pu changer dans les personnes qui se formaient avec vous en tant que danseur?
Les élèves ont rapporté, donc ce sont des jeunes danseurs de 12 à 18 ans qui sont en formation pour devenir danseurs professionnels. Ils ont rapporté que ça leur a fait beaucoup de bien en fait de pouvoir danser sans cette contrainte de la perfection du mouvement. Et de voir aussi que malgré des contraintes ou des limites, on pouvait danser et faire un mouvement différemment. En fait, c'est comme si ça les déchargeait d'un poids dans leur formation.
Et derrière, t'imagines qu'ils vont danser peut-être un petit peu plus librement ou créativement?
Mais en fait, je pense que ça les fait revenir à l'essence de pourquoi ils dansent. C'est quelque chose qu'ils ont tendance à oublier dans la formation, qui est assez technique, assez pratique. Et ces ateliers leur permettent de revenir à l'essence de la danse, qui est le ressenti, c'est qu'est-ce que je sens dans mon corps et qu'est-ce que mon corps me dit de faire comme mouvement, et de lâcher un peu la tête et la réflexion et l'analyse du mouvement, parce qu'ils sont beaucoup devant des miroirs, donc ils doivent regarder. Mmh. Donc ça leur permet vraiment de revenir à cette essence du plaisir de danser, parce qu'on aime danser.
Alors, je connais très 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 peu l'histoire de la danse. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des parallèles ou des manières dont la danse a évolué dans l'histoire de... En fait, j'imagine que ça a évolué du peut-être très structuré au moins structuré aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, toi, qu'est-ce que tu imagines?
Je pense qu'il y a des allers-retours et des mouvements différents dans les divers dans les diverses mouvances. Le classique est, je pense, devenu de plus en plus technique, et il le reste parce que le classique reste le classique, et donc il reste sur un canevas. Les techniques de classique sont toujours les mêmes qu'il y a des centaines d'années. Enfin, c'est, je veux dire, les pas restent les mêmes, mais on y apporte de plus en plus de touches de contemporain et de bon, la danse évolue. Il y a toujours des nouvelles pratiques de danse qui émergent. Après, je pense que régulièrement, on revient à des choses plus traditionnelles parce que ça fait partie de notre histoire et de notre culture. Et donc, je pense que c'est important aussi pour les gens de se raccrocher à ces choses-là.
Il y a quelque chose que j'ai envie de creuser avec toi, c'est le rapport à l'inclusion, à la diversité et à la différence. Parce que, en tout cas, moi, jusqu'à échanger avec toi, j'avais pas... eu connaissance de projets de ce type-là. Après, c'est aussi parce que je baigne pas dans l'univers de la danse, mais d'avoir des endroits où on mélange des personnes qui peuvent avoir un handicap ou une maladie ou même juste une différence, en fait, qui est ni mieux ni moins bien. Parce que vous, j'ai l'impression qu'à la Moses Ballet School, vous avez un vrai parti pris, en fait, autour de SRA, autour de l'inclusion, de la diversité. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus?
Et en fait, l'école, les fondateurs de l'école, quand ils ont créé cette école qui est un petit peu, on peut dire, l'équivalent de l'Opéra de Paris, c'est une école de ballet où on forme des jeunes adolescents à devenir professionnels, un danseur professionnel, ce qui demande beaucoup d'exigences et beaucoup de techniques et de sacrifices quelque part. Et puis ils se sont dit, on veut aussi être une école qui a un côté très humain, très attentif à la personne, à l'individu. La compétition, chez nous, ils appellent ça compétition constante, consciente. Donc, c'est être conscient de son corps, de ses besoins, être à l'écoute, c'est prendre soin de soi. Il y a toute une partie de self-care, de nutrition, vraiment aussi de avec des ostéopathes pour vraiment faire en sorte que les élèves soient bien pris en charge. Et puis, il y a l'ouverture sur le monde, c'est de se dire, OK, on va former des danseurs professionnels, mais on peut aussi faire plus. Et donc, leur ouvrir l'esprit à ce don qu'ils ont de pouvoir danser. Ils peuvent aussi en faire cadeau à d'autres. Et comment est-ce qu'on peut en faire cadeau? Il y a la partie des représentations d'un danseur professionnel qui va offrir un spectacle. Mais il y a aussi qu'est-ce que je peux apporter par la danse en plus. Et donc, il y a tout cet aspect de programme d'impact sociétal, comme on l'appelle, qui est plus l'ouverture vers le reste du monde. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est promouvoir et faire découvrir l'autre danse, vraiment celle qui inclut, celle qui rassemble, celle qui permet de soigner, celle qui permet de se sentir bien. Et c'est dans toutes ces activités-là qu'on essaye aussi d'impliquer nos élèves pour ne pas avoir que des élèves qui sont dans une formation technique où ils doivent performer et être excellents en permanence.
Alors, je vais te poser une grande question. C'est quoi pour toi le rôle de la danse dans le monde d'aujourd'hui?
Je pense qu'elle gagne à être... plus utilisée parce que la danse, elle fait partie de beaucoup de cultures, et en fait je pense que la danse permet aux gens de se retrouver, eux-mêmes, mais aussi de retrouver les autres. Et on le voit, il y a eu le Covid, on a eu les confinements, quand on a pu rouvrir et se retrouver, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait des fêtes et les gens ont dansé. Je pense que la danse, c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne dansent plus parce que la société ne nous aide pas à nous sortir danseurs, mais dans d'autres cultures, c'est dès le berceau, on danse, quoi. Donc, moi, je trouve que la danse devrait plus faire partie de notre vie. Ça fait tellement de bien, ça libère tellement de choses, ça permet de dédramatiser parfois des situations ou simplement d'exprimer des choses. Parfois, on n'a pas les mots et simplement les exprimer par le corps, ben, ça permet de se sentir simplement mieux.
Ça serait quoi tes conseils ou tes recommandations aux personnes qui nous écoutent et qui se disent « Oui, ça me parle, mais je ne sais pas par où commencer.
» Bah, pour commencer facilement, moi, j'ai mon petit rituel. Quand je me sens vraiment pas bien, bah, je me prends ma playlist et je prends vraiment un morceau que j'adore et je le mets à fond et je danse dans ma cuisine ou dans mon salon. Et rien que ça, ça fait tellement de bien. En plus, chez soi, bah, y a personne qui regarde, donc on n'est pas gêné. Et puis après, bah, on peut essayer avec d'autres.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de nous partager que tu as pas encore pu partager sur cet atelier de danse?
Ben, en fait, ce que j'ai envie de partager, c'est que cet atelier de danse, c'était vraiment une partie minime de tout le travail qu'on fait quand on danse. On essaye d'organiser un maximum d'ateliers découvertes pour que les gens puissent essayer, justement, comme tu disais, ceux qui ont envie, qui voudraient essayer, ben, on fait des ateliers où ils peuvent essayer juste une fois sans s'engager, juste pour voir ce que c'est. On fait aussi des formations pour des professionnels, on organise des moments de rencontre, on a fait un bal folk justement où on a proposé des danses traditionnelles, on fait des thés dansants, on essaie on s'implique dans des, on va dans les maisons de repos pour faire danser les personnes âgées aussi. Enfin, on fait plein d'activités qui permettent de rapprocher la danse au plus près des gens. Parce qu'il y en a qui peuvent se déplacer pour aller danser, mais il y en a aussi qui ne le peuvent pas. Et donc, nous, notre objectif, c'est de rendre la danse accessible aussi à tous.
Comment est-ce qu'on peut vous retrouver s'il y a des personnes qui ont envie de vous contacter, peut-être des personnes en Belgique qui seraient intéressées par vos programmes ou qui auraient envie d'aller plus loin? Comment on vous trouve?
On a un site web qui est quand-on-danse.org. Où on trouve toutes les informations, les événements qu'on organise. Il y a un blog d'actualité aussi où on met régulièrement des articles avec des photos, des vidéos. On a aussi nos réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram. On nous trouve, c'est Quand on danse. Et sur LinkedIn, c'est la page de la Moza Ballet School. Bon, c'est plus professionnel, donc il y a moins, je dirais, de détails sur les activités. Donc, c'est plus les autres réseaux sociaux.
Et Laura a une date aussi à nous partager, ceci est un ajout qu'on a fait après le podcast, donc on rajoute la date qui était importante, l'information qui était importante, et puis après vous aurez la conclusion du podcast.
Oui, et donc le grand événement de cette année, c'est qu'on organise en septembre une conférence internationale danse et santé. On a invité des experts internationaux en danse et en santé par la danse qui vont venir toute une journée animer une conférence et des ateliers participatifs. Et donc, ça va être vraiment super intéressant. On a les thématiques, c'est vraiment cette année, on s'est axé sur la thématique de danse pour les aînés, donc les seniors. Et on va avoir de la santé par la danse, mais aussi de la psychologie de la danse, de la danse pour le Parkinson, de la danse pour la démence. Voilà, les orateurs sont des danseurs, des psychologues, des médecins. Et c'est une conférence qui sera en traduction simultanée français-anglais et qui sera aussi disponible en ligne. C'est une conférence hybride, donc je pense que ça va être vraiment super intéressant.
Ça marche, je vais mettre les liens dans la description de l'épisode. Et on arrive sur la dernière question de cet épisode, qui est la question de la dédicace. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose à qui tu as envie de dédier cet épisode et qui t'a peut-être particulièrement inspiré sur ce thème?
Je pense que j'aimerais dédier cette interview aux fondateurs de l'école, Damien Accomelio et Benjamin Decloud, qui sont un couple dans la vie et dans le métier, ils ont fondé cette école ensemble. C'était le rêve de Benjamin. Et cette envie qu'ils ont eue de faire, de partager ça avec un maximum de monde, je trouve ça tellement formidable. Et puis, la confiance qu'ils me donnent de gérer ce programme pour eux. Voilà, c'est un petit peu une renaissance pour moi, ce nouveau travail. Donc, j'ai envie de les remercier pour ça.
Merci à eux et merci à toutes les personnes qui créent aussi ces espaces de renaissance, parce que je pense que dans les personnes qui nous écoutent, il y en a nombreuses qui ont tendu des mains comme ça aussi. Donc merci à vous. Et merci à toi, Laura, pour ta présence, pour cette interview, pour ton partage aussi sur la vie, sur comment la danse peut réilluminer le monde. C'est beau de voir à quel point le mouvement peut recréer du mouvement.
C'est une belle phrase philosophique.
Tout à fait. Merci, Laura.
Merci à toi.
Merci à vous pour votre écoute de cet épisode de La Licorne. On se retrouve dans 2 semaines pour ce qui sera sûrement un des derniers épisodes de La Licorne. Alors, pas de panique. Bon, je me doute que vous n'êtes pas en panique de toute façon, mais le podcast va prendre un grand tournant à partir de la rentrée. Il va se dézoomer un petit peu des questions de comment on anime des moments extraordinaires et aller beaucoup plus loin sur le sujet de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Je vous en dis pas plus, mais à partir de la rentrée, le podcast aura de grandes évolutions. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Licorne, et vous pouvez me retrouver aussi dans votre boîte mail avec la newsletter Secrets de Facilitation. À bientôt !